Luc 10, 38 à 42. Donc Marthe et Marie sont deux femmes dont on parle à plusieurs reprises dans les évangiles parce que c'était des amies de Jésus et lorsqu'il venait à Jérusalem, il séjournait souvent chez elles ainsi que chez leur frère Lazare. Elles habitaient Béthanie tout près, donc il y a eu certains moments où il a même passé la nuit avec ses disciples ou alors il est venu manger avec ses disciples. Et c'était vraiment une maison qui était ouverte, donc on ne sait pas énormément de choses. On nous parle de Lazare et puis de Marthe et de Marie, et simplement qu'elles étaient accueillantes pour Jésus et ses disciples, et c'était un endroit de repos pour Jésus pendant qu'il était sur cette terre, même quand il a vécu des choses difficiles à Jérusalem, juste avant même sa mort, il a pu venir et trouver un endroit qui était accueillant pour lui. Et en Luc 10, 38 à 42, on voit un épisode particulier d'un moment où Jésus est reçu chez elles. Donc on va lire les versets 38 à 42 du chapitre 10 de Luc. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc c'est un passage dont on peut être quelquefois familier, mais en même temps, si on y repense ou si on le lit pour la première fois, c'est un peu déroutant parce que Marthe est quelqu'un qui est plein de bonnes intentions. Elle a vraiment fait le maximum, elle a accepté que Jésus vienne dans sa maison. Avec Jésus, il y a les disciples, donc ça fait beaucoup de monde. Et elle fait preuve d'hospitalité, elle est accueillante. Et puis, on peut être un petit peu étonné parce que finalement, c'est elle qui sert, c'est elle qui fait tout le travail. Finalement, on a l'impression à la fin que Jésus la reprend et lui dit qu'elle est un peu passée à côté de ce qui était important et que c'est Marie qui était tranquille en train d'écouter Jésus qui finalement a la bonne part. Donc c'est vrai que ça peut nous étonner un peu et c'est en tant que femme, on a quelquefois un peu cette tendance-là de se dire c'est Marthe qui est la plus spirituelle puisqu'elle sert, elle donne sa vie, elle fait le maximum et ça peut nous remettre un petit peu en question. Et en fait, c'est vrai que Marthe était pleine de bonnes intentions, elle fait quelque chose qui est super, qui est beau, mais le problème c'est qu'elle est complètement prise dans ses soucis et dans ses préoccupations. Et on voit au verset 40, il est dit qu'elle est occupée. Et occupée, bon, c'est traduit d'un mot grec qui est périspao. Péris, c'est autour, et spao, c'est tirer. Donc c'est quelqu'un qui est tiré hors de ce qui est important, qui est distrait, ça peut être traduit par affolé, absorbé, affairé, tiraillé. Donc on voit qu'elle est tiraillée par toutes sortes de choses et elle n'est pas concentrée sur ce qui est le plus important. Donc elle est tiraillée dans son esprit. Et puis divers, en fait, c'est un grand nombre de choses. En fait, elle est préoccupée par tous les détails, tout ce à quoi il faut penser, préparer, etc. Et ça la tiraille intérieurement. Et quand Jésus lui répond, il lui dit de façon claire, tu t'inquiètes. Donc c'est un terme qui veut dire être inquiet, troublé par des soucis, occupé, même quelquefois chercher à promouvoir ses propres intérêts. Et ensuite, tu t'agites. C'est un mot c'est turbazo, qui veut dire être dérangé, troublé, inquiet. Donc on voit qu'elle n'a pas la paix dans son cœur. C'est pas seulement qu'elle fait des choses, c'est surtout qu'elle n'est pas dans la paix et qu'elle est distraite, elle est tiraillée par plein de choses et elle est en train de penser à toute la liste des choses encore à finir pour que tout soit prêt. Et du coup, bon, elle pense pas du tout que Jésus est en train d'enseigner. Et la conséquence concrète, c'est que d'abord, elle a du ressentiment par rapport à sa sœur, et ce ressentiment, elle le transfère sur Jésus, parce qu'en fait, elle fait un reproche à Jésus, et elle le rend responsable. Et donc au verset 40, on voit qu'elle survient, donc c'est brusque, elle fait irruption un petit peu au milieu de la scène, et elle lui dit, mais ça te fait rien, c'est sous-entendu, tu prends pas soin de moi, tu t'occupes pas de moi, tu penses pas à moi, enfin, elle se sent un peu abandonnée en quelque sorte, elle a l'impression que Jésus ne se soucie pas d'elle, et... quand elle dit « ma sœur me laisse seule », ça pourrait être traduit aussi par « ma sœur m'abandonne ». Donc vraiment, elle a l'impression qu'elle est toute seule, qu'il n'y a personne pour l'aider, que Jésus ne pense pas à elle. Et du coup, elle a de la frustration et elle verse cette frustration non seulement sur sa sœur, mais aussi sur Jésus. Et... elle se sent réellement blessée subjectivement, enfin en tout cas c'est ce qu'elle vit dans son cœur. Elle est blessée par l'attitude de sa sœur et elle est blessée de ce que Jésus ne réagisse pas face à ça. Et la réponse de Jésus est quand même assez directe. Il lui montre que le problème, ça n'est pas sa sœur. Le problème, il est d'abord dans son cœur à elle. Il lui dit, mais c'est toi qui t'occupes et qui t'agites pour beaucoup de choses. Et il veut lui remontrer les bonnes priorités. Et en même temps, il protège Marie. Il dit qu'il va pas empêcher Marie d'écouter si elle a envie d'écouter. Et c'est vrai que c'est un phénomène, c'est quelque chose qu'on peut ressentir quelquefois dans notre cœur, parce qu'en particulier en tant que femme, on a souvent beaucoup de choses auxquelles il faut penser. À la maison, c'est souvent la femme qui essaie de penser à toutes les choses pratiques ou concrètes, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de préparer plein de choses. Dans plein de domaines, ça peut être comme ça, on peut se sentir responsable, et c'est bien parce qu'on a une responsabilité et il n'est pas question de se laisser vivre en faisant n'importe quoi, mais souvent on prend les choses très à cœur et... ça finit par nous poser un problème et ça peut créer une frustration en nous. Et quelquefois, il peut même y avoir des phénomènes un peu irrationnels. Par exemple, je prends le cas de la vie d'église, mais ça peut être appliqué à plein de choses. Une mère de famille va se dire, c'est être frustrée parce que d'autres qui n'ont pas d'enfants vont pouvoir venir à plus de cultes, profiter plus et se dire, elles au moins, elles peuvent facilement venir un mercredi soir ou je sais pas quoi. Et inversement, une femme qui n'a pas d'enfant et puis qui aura été disponible pour faire le ménage dans l'église ou répéter à la chorale va se dire moi j'ai œuvré pendant la semaine pour que on puisse profiter du culte, etc. Puis il y en a d'autres qui viennent juste s'asseoir sans et c'est complètement irrationnel parce qu'en fait si on y pense vraiment chacune a une vie qui est différente, chacune a des choses particulières et il n'y a pas de comparaison possible. Mais c'est vrai que dans notre cœur, quelquefois, on peut avoir ce type de réaction. Donc, on a besoin de faire attention. Et la parole de Dieu nous appelle à redonner, à pas, comment dire, on a reçu un trésor dans notre cœur aussi pour le partager. Donc ça, on sait que c'est vrai. Et en même temps, on doit faire très attention à avoir des bonnes priorités dans notre cœur. Et la première chose, c'est de reconnaître objectivement que de recevoir la parole de Dieu et connaître Christ est notre priorité. C'est le plus important. Après, il faut voir de façon pratique comment on le met en œuvre. Mais en tout cas, déjà, reconnaître de façon... comment dire, prendre une décision de croire que c'est vraiment connaître Christ et recevoir sa parole qui est une priorité et savoir qu'on ne peut pas donner quelque chose si on l'a pas d'abord reçu. En 2 Corinthiens 5, 14, il nous est dit que c'est l'amour de Christ qui nous presse, qui nous pousse à pouvoir donner aux autres. Et si on n'a pas d'abord reçu l'amour de Christ pour nous, on va pas pouvoir le redonner, c'est impossible. Et En réalité, il est plus important de manifester le cœur de Dieu, de manifester le caractère de Christ, que de faire beaucoup de choses. À la limite, il vaut mieux faire moins, mais vraiment en communiquant le cœur de Dieu et son amour pour les autres, que de faire plus, mais en vivant dans la frustration ou en communiquant quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu est. Le fait de reconnaître que c'est d'abord de recevoir de Dieu qui est important, c'est aussi une attitude d'humilité. Parce qu'en réalité, c'est assez présomptueux de croire qu'on pourrait donner quelque chose à d'autres personnes de nous-mêmes, parce qu'il y a rien de, on a besoin de reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous-mêmes, et que ce qui est bon, c'est ce que Dieu nous donne, et c'est ensuite seulement qu'on peut le redonner. Et de ce point de vue, Marie a une attitude humble, dans la mesure où elle a une attitude comme un disciple. D'ailleurs, entre parenthèses, à l'époque, c'est pas très fréquent qu'il y ait des femmes qui soient disciples d'un enseignant, etc. Mais là, elle a vraiment l'attitude d'un disciple. Elle s'est assise à côté, au pied de Jésus, et elle écoute la parole. Et dans la Bible, il y a deux mots pour parole. Le mot logos, qui désigne la parole de Dieu de façon générale, et un autre mot, rhéma, qui veut dire une parole précise, donnée pour une personne dans un moment particulier. Et là, il se trouve que c'est le mot logos qui est employé. Ça montre que Marie accepte de s'asseoir, de passer du temps pour simplement écouter la parole, tout ce qui est enseigné de façon générale par Jésus, parce que si on veut avoir quelque chose de particulier pour nous personnellement dans notre cœur, on a besoin d'abord d'avoir l'attitude d'humilité, d'écouter toute la parole. Et puis c'est là que mon Dieu nous touchera, nous donnera quelque chose de particulier pour nous, mais on peut pas s'attendre à ce que Dieu nous donne quelque chose de particulier si on n'a pas l'attitude d'humilité d'abord d'écouter la parole de façon générale quand elle est partagée. Et quand on regarde même la vie de Jésus-Christ, en fait, Christ sur la terre a passé beaucoup de temps à chercher à connaître la volonté de son Père, à prier. Il a étudié l'Ancien Testament Christ était parfait, il était sans péché, et pourtant, il savait qu'il avait besoin de dépendre de son Père pendant qu'il était sur cette terre, et de le connaître et de passer du temps avec lui. Et il dit par exemple en Jean 5, verset 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Donc il avait besoin de voir d'abord ce que le Père faisait. Et on le voit dans tous les moments où il avait des choix importants à faire, quand il a dû choisir les disciples, etc. Il a d'abord passé du temps à prier et à écouter son Père. Et si Jésus, qui était parfait, a dû le faire, a fortiori, nous, on en a besoin parce que comment pourrait-on faire mieux que Jésus-Christ, qui a été dépendant de son Père pendant toute sa vie sur terre. Donc, on a besoin de cette attitude d'humilité, de reconnaître qu'on a d'abord besoin de recevoir. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de savoir que notre identité n'est pas dans ce que nous faisons. Parce que c'est vrai que souvent en tant que femme, je dis ça aussi en tant que célibataire, parce que on voit peut-être pas notre identité dans les membres de notre famille, enfin dans un mari ou dans des enfants. Donc quelquefois, on peut avoir besoin de se sentir importante aux yeux des autres par les choses qu'on fait. Et ça, ça n'est pas ce que Dieu nous enseigne, parce que Dieu nous montre que notre identité, c'est ce que on est pour lui. En fait, il nous aime parfaitement. Indépendamment de ce que nous faisons. Il nous a sauvés entièrement par grâce, sans rien nous demander. C'est lui qui est venu sur terre, c'est lui qui est mort à notre place, il a tout fait. Et il nous aime parfaitement, et on ne peut rien faire de plus. On ne peut rien faire qui fasse qu'il nous aime plus, parce qu'il nous aime déjà parfaitement. Et notre identité, c'est ce qu'il dit dans sa parole, et en Jean 15:15, il dit que nous sommes ses amis, nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous sommes ses amis. En Galates 4:7, il est dit que nous sommes ses enfants, nous sommes les filles de Dieu à partir du moment où on a reconnu qu'on était pécheurs et que Jésus-Christ était mort à la place à notre croix. Eh bien, on est adoptés par le Père céleste et nous sommes ses enfants. Et il est parlé de nous aussi comme la fiancée de Christ. En 2 Corinthiens 11:2, Éphésiens 5, 22 à 32 et Apocalypse 19 verset 7, il est parlé de nous comme de la fiancée de Christ, et donc ça montre l'amour que Dieu a pour nous, et c'est ce que nous sommes pour lui. J'imagine que quand on est en période de fiançailles, de toute façon, la fiancée, pour son fiancé, il l'aime simplement parce qu'elle est, pas parce que elle va bien faire certaines choses. C'est sa vie, c'est son cœur qu'il aime. Et Dieu avec nous, c'est la même chose. Il se réjouit de ce que nous existons. C'est notre vie, notre existence qui lui fait plaisir avant toute chose. Et notre identité ne dépend pas de choses que nous faisons. Donc nous avons besoin d'abord de recevoir notre identité en Christ avant de faire quoi que ce soit. Un autre point également pour passer ces piégés comme Marthe, c'est que quand nous faisons des choses, nous avons besoin de les faire avec avec conviction, simplement. En Romains 14, verset 23, il est dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Alors, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir un ange qui nous parle ou d'avoir une révélation particulière pour servir, pour donner, mais simplement que si on le fait, on le fait parce qu'on est convaincu que c'est bien, que c'est ce que Dieu nous demande, et on le fait pas simplement parce qu'on croit que c'est ce que les autres attendent de nous, ou que pour être accepté dans un groupe, il faut faire ceci ou cela. On le fait en sachant simplement dans notre cœur que c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Et à la limite, Marthe aurait pu décider que ce jour-là, elle voulait tout préparer pour que les autres écoutent. Je ne sais pas si c'était ce que Dieu lui demandait, mais elle aurait pu très bien dire, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui prépare tout, comme ça, les disciples, les invités, Marie, tout le monde peut écouter, et puis un autre jour, ce sera moi qui écouterai. Et puis, si elle avait eu cette conviction-là, elle aurait été en paix, et il n'y aurait pas eu de problème. Mais elle ne l'a pas fait dans cet état d'esprit-là. Donc forcément, elle a comparé, elle a regardé ce que sa sœur faisait, et là, ça devenait un problème. Donc, on a besoin de se souvenir, d'abord, que ce qu'on fait, on le fait devant Dieu. On le fait parce qu'on est convaincu que devant Dieu, c'est quelque chose de bien qu'il nous demande et qu'il agrée. Et que chaque membre du corps remplit un rôle différent. En fait, on ne peut pas comparer, puisque dans la Bible, l'Église, l'ensemble des chrétiens sont comparés à un corps. Et par définition, dans un corps, chaque organe est différent. Bon, on a deux mains, deux yeux. Il y a des choses qui sont en double, mais il y a quand même des rôles extrêmement différents. Et donc, dans le corps de Christ, c'est la même chose. On peut pas comparer ce que Dieu nous demande avec ce que Dieu demande aux voisins, puisque par définition, on est un membre différent. Donc forcément, Dieu nous demande quelque chose de différent. Et si nous demandait la même chose, ça pourrait pas fonctionner. On serait complètement handicapé. On sait que on est un membre unique, et ce que Dieu nous demande, il nous demande à nous et pas aux voisins. Donc on peut être parfaitement paisible et on peut pas se comparer. Et c'est vrai que c'est très humain de se dire, si Dieu me demande ça, c'est forcément qu'il le demande à tout le monde. Et on le voit même entre les apôtres. Au moment où Jésus est sur le point de partir, Jésus parle à Pierre et il lui annonce un petit peu ce qui va arriver dans la suite. Et il y a tout de suite... Pierre se demande ce qui va se passer pour Jean, l'autre apôtre qui est très proche de Jésus. On voit ça en Jean 21:21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, donc si je veux pas qu'il meure, que t'importe, toi, suis-moi. » Et en fait, c'est la réponse que Jésus nous donne à chacun. Ça te concerne pas ce que je demande à ton voisin ou à ta voisine. Toi, tu as une responsabilité, c'est de me suivre, et occupe-toi simplement de ça. Et si on fait les choses simplement parce qu'on veut atteindre un standard, forcément on va juger les autres parce qu'ils n'atteignent pas le même standard. Mais le problème, c'est que Dieu nous a jamais donné de standard. Et Dieu nous donne une liberté en tant qu'enfant de Dieu. Et notre liberté, c'est de simplement faire ce que lui nous demande et pas ce que nous pensons être bien aux yeux des autres. Et donc, si on a cette conviction, ça ne nous pose pas de problème. À la limite, c'est vrai que si je reprends l'exemple d'un culte, bon, ben, y a des gens qui vont s'occuper de l'école du dimanche. C'est un service qui est rendu à d'autres. Mais si Dieu lui a demandé de faire l'école du dimanche, c'est parfait et puis ça peut les combler. Et il n'y a pas à comparer, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent simplement. Et puis la dernière chose qu'on voit par rapport à Marthe, c'est que le problème de Marthe, c'était qu'elle était préoccupée et tiraillée par plein de choses et qu'elle n'était plus en mesure de discerner la présence de Dieu et de voir que Jésus était là, que Jésus était le Fils de Dieu et que même peut-être que c'était un temps très particulier où elle avait besoin de recevoir elle aussi. Et c'est intéressant parce que juste un tout petit peu plus tôt, dans le même chapitre de Luc, Jésus a enseigné ses disciples au verset 23, au verset 24, pour leur dire qu'il est sur terre et que c'est quelque chose de particulier et d'important. Il leur dit, se tournant vers les disciples, donc verset 23 et 24, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. » Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et là, ce qui est un peu triste, c'est que Marthe passe à côté elle se prive d'une bénédiction. On a aussi un autre passage dans la Genèse où il y a quelqu'un qui a un songe et puis il se rend compte tout d'un coup que c'était Dieu qui était là. Et il est un peu, tout d'un coup, il réalise qu'il est passé à côté de Dieu. C'est Jacob, Genèse verset 28 verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et quelque part, il est un peu déçu sans doute. Et donc, dans notre vie, même s'il y a plein de choses à faire, on peut demander à Dieu de nous aider à être attentifs à sa présence, parce que nous sommes ses enfants, et il nous a donné le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est vrai que quand on est au boulot, par exemple, on est concentré sur ce qu'on a à faire. Ça dépend des types de métiers, mais quelquefois, bon ben, on n'est pas payé pour méditer ou prier. on doit travailler, mais en même temps, profiter des petits moments qu'on a entre quand on marche, quand enfin pour se dire ben, que Dieu est là, que Dieu est avec nous et que il a quelque chose pour nous. On peut bénéficier de simplement être dans sa présence et se rendre compte que les soucis peuvent nous écarter de Dieu parce que les soucis, on les rumine dans notre tête et pendant qu'on pense à tous nos soucis, finalement, on pense pas à Dieu. Et c'est un peu l'enseignement aussi de la parabole du semeur où Jésus dit « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Luc 8, 14. Mais la première chose qui est contre laquelle on est mis en garde, c'est les soucis. Et c'est vrai que ça nous donne un cœur tiraillé. Et Dieu nous demande d'être concentrés sur lui et de pas nous laisser distraire. Et il y a pas mal de passages dans les Écritures où Dieu nous encourage à nous décharger sur lui de nos soucis. Par exemple, en 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est vrai que on a du mal quelquefois à trouver le bon équilibre, de savoir, parce qu'on sait qu'on doit être responsable. Là, je vous parle un peu avec des questions que je me suis posées à certains moments. Par exemple, quand on est étudiant, c'est assez compliqué parce que on sait que on doit faire confiance à Dieu. En même temps, on doit travailler. Et je crois que c'est pas une bonne attitude de se dire bon ben Dieu sera fidèle, je marche par la foi et puis je fais plein d'impasses et puis ça va tomber juste sur le sujet que j'avais traité. Je crois que ce qu'on peut faire nous-mêmes, on a à le faire et Dieu le fera pas à notre place. Mais inversement, ce que nous on peut pas faire, on n'a pas besoin de s'en inquiéter parce que c'est pas nos soucis qui vont résoudre le problème. Là, il faut faire confiance à Dieu et c'est Dieu qui le fera. Ce que nous, on ne peut pas faire, Dieu le fera. Et aussi, par rapport à certaines décisions, quelquefois, c'est bien de prendre les décisions à froid devant Dieu, de se demander qu'est-ce que tu veux pour moi, qu'est-ce qui est bon devant toi, et savoir aussi quels sont les risques qu'on prend, pas nier qu'il y ait des risques, mais dire, bon ben Seigneur, je crois que tu me demandes ça, donc j'accepte le coût que ça peut représenter, mais je sais que tu seras fidèle pour m'aider, même s'il y a ce coût. Un exemple très très concret, quand on a pris ce local, c'était plus cher que l'ancien local, et donc Pasteur Michel et Pascal savaient que ce serait un peu compliqué pour qu'on puisse leur verser un salaire régulier. Donc ils ont décidé de vivre dans le local de l'église pendant un certain temps. Ils ont mesuré le coût que ça représentait. Ils n'ont pas dit, on va vivre par la foi, on va prendre un appartement qui coûte tant par mois et puis on verra bien, Dieu sera fidèle et puis forcément on aura chaque mois une grosse somme d'argent qui nous sera envoyée par la poste, etc. Ils ont mesuré le coût que ça représentait, mais après ils ont fait confiance à Dieu, que Dieu serait fidèle et Dieu les aiderait même s'il y avait des moments peut-être plus difficiles. Et là, je crois que dans ces cas-là, on peut se décharger sur Dieu des soucis parce que on sait que c'est lui qui fera les choses et que on n'a pas été présomptueux par rapport à, on n'a pas manipulé les choses, on n'a pas manipulé Dieu. Un autre exemple aussi, si on prend la décision de, parce qu'on est croyant, de se dire je veux pas me marier avec n'importe qui, n'importe comment, etc., et avec quelqu'un qui partage pas la même foi, à la limite ça veut dire qu'on prend une décision à froid devant Dieu et qu'il peut y avoir un coup parce que il peut y avoir des moments qui sont un peu difficiles où on se dit on préférerait peut-être avoir des enfants déjà ou je sais pas, mais on sait que on a fait le choix devant Dieu et là quand il y a des moments difficiles, au fur et à mesure, comme la décision a été prise de façon claire et décidée devant Dieu, on peut au fur et à mesure tout donner à Dieu et pas s'en inquiéter, en sachant que on est dans sa volonté et donc on a la paix dans notre cœur. Et donc je crois que si vraiment on prend nos décisions à froid en sachant que c'est bien ce que Dieu nous demande, ça nous donne une liberté ensuite où on peut vraiment au fur et à mesure se débarrasser des choses et dire Seigneur, tu connais, tu sais ces choses-là et donc je te les donne. Et nos soucis, au lieu de nous éloigner de Dieu parce que ça va nous distraire et nous préoccuper, ça peut être au contraire quelque chose qui nous rapproche de Dieu parce que on sait qu'on n'a pas d'autres ressources de toute façon. Et donc face à nos soucis, on va dire Seigneur, je te les donne et puis je veux te rencontrer dans cette situation. Et donc, au contraire, ça peut être quelque chose qui nous rend encore plus sensibles à lui et pas qui nous éloigne, qui nous distrait de lui parce que on sait qu'on n'a pas à vouloir tout gérer par nous-mêmes. Donc, ça, c'est par rapport à des choses particulières. Et dans notre emploi du temps, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que en tant que femme, quelquefois, on peut avoir des tonnes de choses à faire, que ce soit à cause de la vie de famille ou à cause de d'autres situations. Et quelquefois, ça demande aussi un peu une part de foi que de prendre un temps à part pour venir écouter la parole, au sein de l'église, et puis prendre un moment dans la journée pour lire sa Bible tranquillement. Mais si on prend la décision à froid, en sachant que peut-être il va y avoir des conséquences, ça veut dire que ce temps-là on va pas l'utiliser pour autre chose ou bon, mais il y a une part de foi et puis ensuite une fois que la décision est prise, on est en paix et on sait que c'est parfait. Et juste pour terminer, Jésus dit à la fin que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bonne, c'est un mot qui veut dire à la fois bon, utile, salutaire, agréable et plaisant. Et c'est vrai que le fait d'écouter la parole de Dieu, c'est à la fois quelque chose d'agréable et de salutaire qui va être bon pour notre âme. Et ça ne va pas être ôté à Marie. Et c'est une assurance qu'on peut avoir que c'est quelque chose qui ne va jamais nous être ôté si on, dès qu'on le souhaite, Dieu va nous le donner. En réalité, Dieu n'empêche jamais personne de s'approcher de lui. Donc, c'est quelque chose que personne ne peut nous retirer. À la limite, nous, on peut s'en priver, mais personne ne peut nous retirer le temps qu'on passe avec le Seigneur. C'est vrai que les choses qu'on fait, on peut se rendre compte a posteriori que c'était inutile, ou on peut avoir une déception, on peut réaliser qu'on l'a pas fait exactement comme il fallait, donc ça peut nous être retiré. Ou même quelquefois, Dieu permet qu'il y ait des phases dans notre vie où on ait l'impression de ça ne servira à rien, en quelque sorte. Dieu le permet quelquefois pour nous montrer que notre valeur n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est simplement pour lui. Mais ce qu'on reçoit de la parole et le temps qu'on passe avec lui, ça, personne ne peut nous le retirer. C'est notre bien, c'est précieux, c'est à nous. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous... On n'a pas le droit de s'en priver, parce que Dieu est prêt à nous accueillir à tout moment. Il nous est dit aussi dans les épîtres qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône de grâce sur lequel Dieu est assis aujourd'hui. Et donc ça, c'est un cadeau que personne ne peut nous retirer. Et donc Marie a pu garder cette bonne part, mais cette bonne part, elle est pour chacun et pour chacune. Et c'est juste à nous de la saisir, puisque Dieu est toujours disponible, et il est disponible à la fois pour qu'on puisse recevoir quand la parole est prêchée de façon générale, et à la fois pour qu'on puisse le rencontrer de façon particulière, les deux se complétant en fait. C'est vrai que on a besoin de la prédication dans l'assemblée pour recevoir toute l'objectivité de la parole. Et puis, on a besoin de quelque chose de plus précis pour notre vie, parce que Dieu est un Dieu vivant qui nous connaît de façon personnelle et qui va aussi nous donner... Mais les deux se complètent.